Rappelez que quand est-ce que Jacob a reçu le nom d'Israël? Quand il est revenu de l'exil de chez Laban, hein? Contraint et forcé par ses femmes, c'est Rachel et Léa qui l'ont obligé à décrocher l'exil de chez Laban. Alors, arrivé en pays de Canaan, il reçoit le nom d'Israël. Lorsqu'il redescend en Égypte, il s'appelle de nouveau Jacob. Vous vous rappelez de ça? C'est là où on est arrivé la semaine dernière. Et effectivement, je vais essayer d'illustrer ça dans ce que nous vivons dans le temps contemporain. Bon, c'est une manière de voir les choses. Alors ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une explication que je vous donne, mais retenez d'abord le thème de la Bible. Jacob, c'est la vocation spirituelle. Et que ça? Israël, c'est la vocation spirituelle qui est capable de la vocation matérielle et comme tzaddik. Parce que Ésaü, c'est la vocation matérielle comme Rachar. Vous avez compris la différence? Et en particulier, on apprend du vœu que Jacob va faire lorsque, s'enfuyant du pays de Canaan à cause de la haine d'Ésaü, il va aller chez Laban. Alors, il part de Beersheba, la paracha de Vayetse. Il part de Beersheba, où la famille de Isaac habitait. Il va remonter dans Arad Naharaim, qui est la région de Liban, Syrie, là-haut. Là où se trouvait l'autre branche de la famille d'Abraham qui est restée dans l'exil de Haram, là où se trouvait Laban, fils de Bethuel, fils de Nahor, frère d'Abraham. C'est clair, vous identifiez. Il est arrêté à Bethel par une vision, qui est la vision de l'échelle de Jacob. Lorsqu'il se réveille de la nuit, alors il fait un vœu. Vaïdor Yaakov Neder les mots. Dans ce vœu, je vous ai rattaché à tellement de choses dans ce texte, je vous ai rattaché à ce que je disais absolument. Dans ce vœu, Jacob formule ce que nous avons dans le verset suivant. Il dit « Si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, tu seras mon Dieu. » C'est pas, comment on peut dire en français, on revient en latin. C'est les prières des païens. Comment on dit en français? Un mot à côté. Je te sers à condition que. Les latins disaient do ut das. Je te donne afin que tu me donnes. Il y a un mot en français, mais j'ai oublié. Hein?
Marchandage.
Oui. C'est tout à fait autre chose, c'est un vœu. Il veut se priver de la bénédiction matérielle que Rivka lui avait imposée, cette bénédiction matérielle qu'il devait à Ésaü. Jacob est un type d'homme qui ne supporte pas la vocation matérielle. Or, Rivka lui a imposé aussi la vocation matérielle, parce que si c'est Ésaü qui l'avait, c'est perdu. Je pourrais expliquer beaucoup plus en détail, mais je schématise. Et Jacob ne supporte pas. Et d'ailleurs, nous avons une drache qui dit que, à propos du verset, Vayetse Yaakov mi Beersheba ve'elech Harana. Et Jacob sortit de Beersheba, il alla à Haran. Bon, tous ces éléments, on les connaissait déjà, d'après l'information des textes précédents. Le Midrash dit, Mazé Harana, Haron apoche l'olam, l'endroit de la colère du monde. C'est un thème très important, mais qu'on étudiera peut-être un autre jour. Cet endroit où étaient les bergers de la famille d'Abraham qui sont restés araméens, les bergers de... Vous savez, quand Jacob est arrivé chez Laban et qu'il y avait les bergers qui attendaient, alors qu'il leur demande d'où vous êtes, ils disent nous sommes de Haran. Et alors le Midrash explique, nous sommes du pays de la colère du monde. C'est le thème du péché originel qu'on a chez les païens. Il y a eu, à l'origine de l'histoire du monde, il y a eu une colère. Et il faut, comme on dit en français, les paillesses, les faillesses, il faut
apaiser
la colère. Alors que Jacob leur dit non, mais Aïnatem, vous êtes du néant, vous êtes créé du néant, il faut mériter l'être. C'est deux théologies qui s'affrontent. La théologie de Jacob comme berger, la théologie des bergers de Laban comme berger. Quoi qu'il en soit, ce message que je vous cite dit que Jacob est parti en colère de Beersheba parce qu'il apprend qu'il faut qu'il se marie. Et alors que lui, sa vocation, c'est le livre. pour fonder une famille, alors que bon, c'est le livre. Okay. Vous savez que la vocation spirituelle est que cela, la charge de la famille, on la donne à la femme. Vous avez remarqué ça, okay. Et non seulement ça, le pauvre, une femme, quatre. Alors il est en colère. C'est la quadrature du cercle familial, du cercle de famille. Alors en tout cas, Jacob n'aime pas la vocation matérielle. Alors il dit à Dieu, si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, tu seras mon Dieu. C'est tout ce que je demande. Et alors il y a un commentaire chassidique qui a posé la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire du pain pour manger, un vêtement pour m'habiller? Le pain c'est pour manger, un vêtement c'est pour s'habiller. Il dit, je ne veux pas du pain que je devrais vendre pour acheter un vêtement. Je ne veux pas un vêtement que je veux vendre pour acheter du pain. Si du pain c'est pour manger, c'est un vêtement c'est pour m'habiller. Le commerce il a refusé. Regardez qu'est-ce que c'est Jacob. Même le commerce ça ne lui va pas. Hein? C'est-à-dire un vrai Bahur Yeshiva est que ça. Hein? Mais ce n'est pas Israël encore. Ça c'est Bahur Yeshiva. Hein? C'est la vocation spirituelle, monastique, ascétique. Vous savez, il y a des chassidim qui sont comme ça. C'est le chassid ascétique. Et cette vocation, c'est une dimension des sociétés humaines. Et en Israël, c'est une dimension de l'identité juive. Mais quand c'est que ça, c'est l'échec d'Israël. Parce que ce qu'on attend, c'est Israël, c'est pas Jacob. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et alors, donc, ce n'est pas du tout un marchandage. C'est un refus de la vocation matérielle. Et effectivement, nous avons une confirmation. Lorsque Jacob revient de chez Laban et qu'il rencontre Ésaü, il y a un verset extraordinaire que commente Rashi. Il envoie une mission, une délégation à Ésaü pour dire... Et il m'a bangarti, baïchar adata, j'ai séjourné chez Laban, j'ai tourné jusqu'à présent, baïhili, chauve, achamon, vaïvel, vechifra. Et j'ai eu des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Et je t'ai envoyé la guide de l'Adonai. Tout ça, Dieu m'a donné. Alors, les commentateurs, et je vais vous citer Rachid, posent la question, comment? Au lieu de lui envoyer une délégation pour faire la paix avec Ésaü, il va exciter sa colère en lui disant, ben, tu vois, la bénédiction que je t'ai dérobée, ça m'a servi, maintenant je suis riche. Alors Rashi explique. Tout ça, ça ne me vient pas de la bénédiction de ton père. C'est mon travail. Donc tu n'as pas à me haïr. Et effectivement, comprenez bien cela. La bénédiction matérielle que Ésaü devait recevoir, que Jacob a pris, pour qu'il y ait unité des vocations, pour qu'il puisse devenir Israël. Parce que Israël, c'est Jacob plus Ésaü, les deux cachères. Est-ce que c'est clair? Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai pas dit qu'Ésaü est cachère. J'ai dit que Israël, c'est un Jacob plus un Ésaü cachère. On va retrouver Ésaü cachère dans la descendance de Jacob, c'est Joseph, que la Gemara définit comme Sitnon shel Esav, l'antagoniste d'Ésaü. Il fait la preuve qu'on peut être homme de la vocation matérielle et être tzadique. C'est clair. Hein? Alors, quand il y a ces deux forces, Jacob devient Israël. Ça va jusque-là? Alors voilà, nous vivons ce problème. Pendant 2000 ans, la vocation juive, c'était Jacob et que ça. La vocation matérielle, on l'a laissée au goyim. En fait, on s'occupait quand même des choses de la matière, mais à l'abri des goyim. La cité était goy. La yeshiva était juive, la synagogue était juive, la cité était goy. Ça, c'est Jacob chez les nations. Et puis, au bout de 2000 ans, Jacob devient Israël. C'est-à-dire, cet homme de la vocation spirituelle prend la vocation matérielle. Et ils font des kibboutim, des universités, des hôpitaux, des cités, des villes. Et Jacob est contre. Les gens des yeshivot sont contre les chalotim. Vous avez compris comment ça marche?
Est-ce que...
C'est rare?
Il est devenu son nom Israël?
Non, parce qu'on oublie qu'il y a des chalotim qui sont Jacob Israël. Chaque fois qu'on parle de ce problème, on oublie toujours qu'indépendamment des chilonim et des charedim, il y a les juifs normaux. Ceux qui sont et l'un et l'autre. On les oublie, ceux-là. Et c'est toujours les victimes. Vous avez compris ce que je veux dire? Très souvent, on pose la question. Non, mais c'est bien que vous avez posé la question. Il ne faut pas oublier ça. Israël, c'est ceux qui sont et l'un et l'autre. Et puis, il y a deux extrêmes. ceux qui sont que l'un ou que l'autre. Mais pourquoi on parle que de ces extrêmes et jamais des justes normaux? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il y a une injustice, plus qu'une injustice, il y a une incompréhension totale. Et je ne sais pas si vous remarquez que ces deux extrêmes sont les ennemis des juges normaux, les deux. Ils sont alliés contre les juges normaux. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le gouvernement actuel? Les Haredim et les Chilonim ont fait une alliance contre nature, contre les sionistes religieux. Vous avez remarqué ça? Bon, tout ça on oublie. Mais la majorité du peuple, c'est ni les Chanonim, ni les Haredim, c'est les Juifs. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas juifs. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'ils sont d'origine juive. Ce sont des juifs originaux. Voilà, c'est ça le fond du problème. Okay. Alors, comme je vous dis, très souvent, et malheureusement, je crains que ce soit comme ça, ça nous est arrivé très souvent dans notre histoire, que la branche chilonite a abandonné Israël, elle s'est perdue. Elle est allée fonder le marxisme, elle est allée fonder l'existentialisme, elle est allée fonder ce que vous voudrez. Et que la branche religieuse nous a quittés, elle est allée fonder le christianisme, elle est allée fonder l'islam, elle est allée fonder Shababoulay. En tout cas, pour revenir. Mais c'est ce qui nous attend. Mais vous savez, on voit en microcosme, dans la société israélienne, comment sont nés ces courants anti-juifs sortis du judaïsme, soit chilonim, soit religieux. Et il faut avoir le courage de voir la réalité en face. Cette histoire nous est racontée dans la Torah. Et alors, très souvent, quand je suis en route la rête, on me pose cette question naïve. Il n'y a pas de question naïve, bien sûr. Qu'est-ce qui vaut mieux, être religieux à Aix-les-Bains ou être athée à la Chomer HaTzaïd? Et alors je réponds, et on ne peut pas être normal. Pourquoi? Connais-tu une fausse question, finalement? Est-ce que c'est clair? Pourquoi on est obligé de choisir entre la peste et le choléra? Seulement, il y a une grande différence. Il vaut mieux être dans la maison qu'en dehors. Alors très souvent, je dis, et je vous le dis en clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis assez souvent invité à la Chomer HaTzaïd. Et alors, je ne peux pas manger à la Chomer HaTzaïd, mais je me sens chez moi. Alors que très souvent, je suis invité chez les orthodoxes à Anvers, le monde à l'envers. Okay. Je peux manger, mais je ne me sens pas chez moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Bon, alors est-ce qu'on ne peut pas une fois construire une maison où on peut manger et on se sent chez soi? Alors, mais c'est ça Israël. Il y a les extrêmes et... Bref. Ça y est, c'est clair. Alors ça, c'est le drame Jacob-Israël. Oui. Et effectivement, il faut bien le comprendre. Il n'y a que Jacob qui peut être Israël. Mais ce n'est que lorsque Jacob est Israël qu'il est Israël. Or, qu'est-ce qu'on attend dans cette histoire? On attend Israël, on n'attend pas Jacob. Est-ce que vous avez bien compris? Et pourtant... c'est ce qu'on dit, mais il faut lire la Torah comme c'est écrit. C'est Yaakov Avinu, mais c'est Israël. Alors il y a une différence d'envergure, de stature. Mais nous sommes dans la société israélienne, dans ce problème. Jacob est en train de devenir Israël, alors on a toutes les scories. Un Jacob qui ne veut pas devenir Israël, un Ésaü qui n'est qu'Ésaü, un Ésaü qui se prend pour Jacob. Alors ce qu'il faut, c'est qu'un Jacob qui devienne Israël. Voilà, c'est clair le problème? Bon. Alors, on peut prendre maintenant... Je crois qu'on est à la fin du cours, mais c'est pas grave. Non, on a encore un peu de temps. Oui, alors on peut prendre maintenant le premier verset de la paracha de Shmos. C'est-à-dire...
Pourquoi est-ce que les enfants de Jacob ne sont pas sortis au moment
où Jacob... Eh bien oui, avant. Ça, vous pouvez conclure par vous-même. Tant qu'ils ont l'identité Jacob en tant que Jacob, ils sont pris... J'en ai parlé un peu la dernière fois, mais je vais reprendre ça. Non, mais je pense que vous ne comprenez pas vous-même ce que j'ai... Mais je vais le dire. Je vous ai expliqué...
Vous légitimez le fait qu'on peut attendre d'être Jacob en exil avant que Dieu nous donne le signe.
C'est ça. C'est des alibis. Je vais vous dire. Vous êtes un peu souvent plaisante, mais ce n'est pas une plaisanterie. Moi, j'ai été élevé dans la tradition sfarade. Dans la tradition sfarade, quelqu'un qui se balance dans la synagogue pendant la prière, on lui fait passer par la fenêtre. Et je vais vous dire pourquoi après. Il n'y a que les vieux, très pieux, mystiques, on leur permet de se balancer noblement. Mais encore, j'allais le dire en arabe, je ne sais pas si vous avez ça. Et parce qu'avant, il y avait une technique mystique des balancements dans la prière. C'est toute une science. Mais quand on voit ces jeunes gens avec une frénésie, les psychologues savent de quoi il s'agit. Ça n'a rien à voir avec la mystique. C'est un névrose sexuel. Et alors, c'est... Bon, j'exagère. Pas tellement. J'ai l'âge qui me permet de dire ce qui se passe chez les adolescents. Et alors, il faut se méfier de ça. C'est toute une science. La frontière entre la mystique authentique et la sexualité, c'est très ténu. Il faut savoir ça. Okay. Alors que, je rappelle, j'avais un professeur de français. Comment il s'appelait Monsieur Mugnot. Et alors, il nous dit une chose très jolie. Il nous disait, quand on écrit des vers à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on écrit des vers à 70 ans, c'est qu'on est peut-être poète. C'est très joli, d'ailleurs. Mais c'est la même chose pour la mystique. Quand on est mystique à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on est mystique à 70 ans, c'est qu'on est peut-être mystique. Il faut être sérieux, quoi. De quoi il s'agit? C'est clair? Alors, c'est la même chose. Après, je vous ai parlé, du balancement. Pour répondre à votre question, un peu souvent plaisante. Vous avez des gens qui disent, je marche, mais ils restent sur place, alors ils se balancent. À force de marcher sur place, ils se balancent. Mais c'est ça l'histoire. Je vous racontais, on plaisante un peu, mais c'est des choses dramatiques. 2000 ans, vous savez que c'est 2000 ans, quand même. L'année prochaine, 2000 ans. Comme on disait, je ne sais pas pourquoi le juge arabe me revient ce soir, Rohinjek, je ne sais pas si ceux qui connaissent l'arabe. Je traduis pas, parce que ça va nous ouvrir des parenthèses. Et alors, il y a Midrash qui dit ceci. Dans la vision de Jacob, de l'échelle des anges, il voit des anges monter et descendre. Vous vous rappelez que la question que pose le Midrash est très importante, que c'est des anges qui montent et qui descendent. Les anges, ils descendent et ils montent. Pourquoi ils montent et ils descendent? Alors, un des Midrashim, parce qu'il y a différentes explications, dit ceci. Il voit les génies des grandes civilisations monter et puis descendre, l'apogée et la chute. Alors il voit l'ange de Babel qui monte et qui tombe. Il voit l'ange de Paras qui monte et qui tombe. Et il voit l'ange de Rome, c'est l'ange d'Ésaü, qui monte et qui reste en haut. Alors il a peur. Il dit, mon Dieu, pourquoi il ne descend pas? Et Dieu lui dit, mais monte le faire descendre. Alors il se prépare. Je me prépare. Alors je vais dire, en bonne part, la troisième chance, c'est toujours la chance critique. C'est toujours un rythme de trois. Quand c'est la dernière chance, il ne faut pas échouer. Donc quand c'est j'ai oublié. Oui. Nous sommes. Vous savez, Israël a traversé les civilisations d'antiquité. Tic-tac. Elles ont disparu. On est là. Et puis voilà que cet exil-là, qui a commencé il y a 2000 ans, a duré 2000 ans. Il nous a fallu 2000 ans pour avoir le courage d'affronter Rome. Et ce n'est que cette semaine qu'on va signer. Pour revenir à l'actualité. Et alors, et c'est vrai, il y a une espèce de crainte de l'engagement qui risque parfois de se masquer derrière un alibi de la vocation. J'attends. Et la vertu, c'est d'attendre. Si j'attends plus, j'ai plus de vertu. Puisque je me suis habitué pendant 2000 ans à savoir que la vertu, c'est attendre. Et tu me demandes de ne plus attendre, je vais être traître à l'attente. Il vaut mieux se marier avec la cousine que d'être traître à l'attente. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est ce qui est arrivé. Imaginez cette inertie de 2000 ans. Inertie, il faudrait un mot plus fort. Pendant 2000 ans, Israël, c'était j'attends, je crois, ça viendra. Mais tout projeté dans un avenir des calendes grecques. L'année prochaine. Subitement, le temps arrive. Et on continue. J'attends. C'est clair. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Il y avait l'occasion de terminer l'exil au moment où il fallait le terminer. Et on s'est installé. Ça, c'est la fin de la paracha la semaine dernière. Les Hébreux s'installent en Égypte. Alors, blackout de la révélation se tait depuis le dernier verset de Bréchit, les Hébreux s'installent en Égypte, jusqu'au verset qu'on va lire, où ils sortent d'Égypte. Blackout, il ne se passe plus rien, j'attends. Okay. Cette éclipse-là, nous sommes la génération de la fin de cette période de 2000 ans où la vertu, c'est d'attendre. Est-ce que c'est clair? Mais c'est le grand conflit que nous avons avec les Juifs de diaspora. Les Juifs de diaspora accusent les Israéliens d'être des traîtres à la vertu de l'attente. Ils attendent. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, je parle comme israélien. Et alors, il y a un conflit très grave. Pour un Israélien, les Juifs de diaspora sont dans une préhistoire de l'attente. Ils sont dans l'être père qui est à la promesse que le fils viendra. Alors que l'Israélien, c'est le fils qui est déjà venu. Et c'est un verset que je vous cite, du prophète Jérémie. « Veshavu banim l'igboulam » Et les fils reviendront à leur frontière. Et les pères? C'est une histoire d'état civil. Chez les Israéliens, il y a aussi des pères. Et chez les Juifs, il y a aussi des fils. Mais il s'agit d'un indice de l'identité Israël. L'indice père, c'est la promesse et la vertu d'attendre que la promesse s'accomplisse et de croire que la promesse s'accomplira. Mais le temps va vite de notre temps. On est en plein jour et vous avez des gens qui disent « bientôt, ça sera l'aube, l'aurore », alors qu'on est en plein jour. Je ne sais pas si vous voyez le drame. Okay? Et je connais énormément de Juifs de diaspora qui sont sincèrement convaincus que nous sommes des traîtres à l'espérance juive. L'espérance juive, c'est « ça viendra ». Mais en Israël, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous voyez le drame. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors voilà. Jacob, comme Jacob, s'installe en Égypte. Et alors qu'Israël, c'est Jacob remonté d'Égypte. Voilà le problème.
Il n'y a rien pu faire. Non. Puisqu'il était de la vocation
d'Israël. Je réidentifiais. Pendant 2000 ans, il y avait des Hébreux chez les Juifs pendant 2000 ans et ils n'ont rien pu faire. Regardez, au moment de Judas Lévi, c'est un des plus grands de nos maîtres. Et Judas Lévi, en son temps, dit c'est le temps, on quitte la galoute d'Espagne et on rentre à Jérusalem. Nachmanide, qui les a suivis hein?
C'est ça,
Judas Lévi. Exact, Judas Lévi. Non, c'est une coïncidence. De la même manière, quand. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes maîtres qui a été le père d'un maître avec qui j'ai étudié, le Rav Ashlag, le grand Rav Ashlag. J'ai étudié avec le fils. Vous avez entendu parler du Rav Ashlag? Le Rav Ashlag, dans les années 20, il était rabbin à Varsovie, il a clamé, le temps est arrivé, il faut décrocher, il faut rentrer. Tous les rabbins de Varsovie ont voulu l'excommunier. Il s'est enfui. Bon, les autres sont restés là où ils sont restés. Il s'est enfui, il a mis... je ne sais pas combien de mois pour arriver en Palestine à l'époque, il a gagné sa vie comme mashgiach d'une yeshiva. Okay? Il faisait répéter la Mishnah aux enfants. Okay? Alors c'est un grand kabbaliste. On voulait le brûler à Varsovie. Il a dit, c'est le temps, sinon si vous ne décrochez pas, c'est le Rav Ashlag. Mais il y en a eu beaucoup comme ça. Il y avait Jabotinsky lui-même. Jabotinsky a annoncé la Shoah. Il a fait des randonnées en Amérique en particulier avec un Sefer Torah sur le bras en disant... il faut sauver les Juifs du monde. Et puis, personne ne l'a écouté. On voulait le brûler, à Jabotinsky lui aussi. Okay. Ben, c'est la même chose. C'est Judas Lévi, c'est Nachmani. Exact. C'est le Gaon de Vilna. Quand le Gaon de Vilna dit, le temps est arrivé. Et les Juifs n'ont pas suivi. Et c'est cette inertie de type Jacob. Je vais vous dire. Pardon ?
Pourquoi ils ont suivi Shabbatat ?
Oui. C'est-à-dire les faux messies. Je vais vous dire, ça c'est une question très importante. J'ouvre une petite parenthèse, mais rappelez-moi ce que j'ai dit avant, parce que je vais oublier. Regardez, chaque fois que quelqu'un a dit « c'est moi, suivez-moi », ça a échoué. La première fois que c'est le peuple juif qui a dit « on décroche », ça a réussi. Le seul messianisme vrai, c'est le sionisme. Parce que c'est le peuple juif qui a dit « c'est le temps ». C'est pas un mystique qui a dit « c'est moi, suivez-moi ». Chaque fois, ça a échoué. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Et c'est pourquoi la Gemara parle de Yemot HaMashiach. Et le signe de Yemot HaMashiach, c'est quand les Juifs reviennent du monde entier. C'est à la fin du premier chapitre de Brachot, page 14a. Page 14a. 12a. Pas 14, 12. Vérifiez. Ça, Yemot HaMashiach. Sur un verset des prophètes. Quand les Juifs reviennent du monde entier, au bout de 2000 ans, on discute. Au bout de 2000 ans, Dieu était fâché avec nous. Subitement, il donne le feu vert. Et on revient de partout. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Et le monde entier est contre nous. C'est ça le signe que c'est le temps. Qui a déclenché ça? Je sais bien que ça fait peur quand on entend ça. Mais qui a déclenché ça? Hertel. Un analphabète de la Torah. Il ne savait pas l'alphabet. Et quand il est arrivé chez les Juifs, on lui a dit, comme ils ont dit à Moïse en Égypte, tu bégayes. Il leur a dit, c'est le temps, il dit, mais tu bégayes. Nahon, je vous dis ça un peu sous forme résumée. Et alors c'est ça la question de Jacob qui ne veut être que Jacob, il s'installe en Égypte. Vous voyez, c'est clair? Et on est pris au piège. Si je parle tellement d'une chose aussi simple, c'est qu'on a 2000 ans d'inertie à finir par comprendre. Okay. On n'a aucune idée que ce slogan « L'année prochaine à Jérusalem » c'était sincère, avec une ferveur totale pendant 2000 ans. Subitement, le temps arrive où on peut être à Jérusalem. Mais on continue à dire « L'année prochaine à Jérusalem ». Alors de quoi il s'agit? Et la ferveur reste la même. Je vous ai raconté une fois ce qui m'est arrivé à Montréal. J'étais pour faire un séminaire là-bas il y a assez longtemps. Et puis, vous savez que c'est surtout des Juifs du Maroc qui sont installés à Montréal. C'est eux les Français du Québec. Et alors, une communauté d'ailleurs extrêmement sympathique. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens parmi vous. C'est une communauté très sympathique, dommage. Tu connais les Juifs. Et alors, à la fin du séminaire, ils m'ont offert une soirée marocaine, en invitant d'ailleurs le consul du Maroc, à Montréal. C'était très, très... Vous savez, l'hospitalité marocaine à une ziara, comme ils disent, c'est extraordinaire. Il faut le vivre pour savoir. Et à la fin, tout le monde s'est levé à chanter la Hatikva avec une ferveur dont vous n'avez aucune idée. Ils m'ont obligé à me mettre au garde à vous, parce que c'est le chant national. Ça, ils ne savent pas. Et après, les chants à Babi au Shaddai, avec une ferveur considérable. Je me suis dit, Ribono Shalom, qu'est-ce qui se passe? Parce que les chants à Babi, c'est sérieux. Les chants à Babi au Shaddai, c'est sérieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire en faisant le tour de la planète? Première étape, Casablanca, Montréal. Deuxième étape, l'Indonésie, après on verra. Mais les deux choses sont sérieuses. C'est la vocation Israël, c'est les chants à Babi au Shaddai. Mais où on le dit, c'est Jacob qui le dit à Montréal. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas des bons juifs. Tfiline, cacheroute, on n'a aucune idée de ce qui se passe à Montréal, enfin ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à là où vous voudrez. Hein. C'est la vie juive authentique. Jacob installé dans le ghetto. Et pendant ce temps, Israël est aux prises avec son histoire. Et avec beaucoup de ferveur, on dit l'année prochaine à Jérusalem. Eh bien, c'est ça la question. Jacob s'est installé. Mais il s'agit de Jérusalem. Alors rappelez-vous ce qu'enseigne Rashi. Il s'agit d'Israël à Jérusalem. Ce qu'enseigne Rashi. À propos du début de la paracha la semaine dernière, Vaïchi Yaakov Beres Mitzrayim, Stuma Mikola Stumot, je ne reviens pas dans le détail, la paracha est Stuma, et Rashi explique, Jacob a voulu leur révéler, et ta quête, la fin de l'exil, ve nistemalo anboua, la prophétie l'a quitté. Parce que Jacob ne voit pas la fin de l'exil, c'est Israël qui voit la fin de l'exil. Vous avez compris la différence? Ça y est, c'est clair, bien? Bon, et ceci dit, c'est Jacob qui est Israël, mais quand il est Israël. Effectivement, les Israéliens sont d'origine juive. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une blague. Okay? Quand ils oublient qu'ils sont d'origine juive, ils deviennent Ésaü. C'est clair ce que je dis là. Okay? Mais nous sommes d'origine juive. Et moi, je peux vous le dire, je suis né dans une famille de rabbins, que je vis ce problème. Mes enfants, mes petits-enfants deviennent hébreux d'origine juive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Ce n'est pas des blagues. Hein? Okay? D'ailleurs, vous voyez avec vos enfants et vos petits-enfants déjà. Hein? Eh bien, comme ça nous est arrivé au bout de 2000 ans, on est stupéfait, suffoqué. Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, il nous arrive ça, la sortie d'Égypte. Alors voilà la question. Il y a la partie d'Israël qui reste dans l'Égypte, c'est Jacob. Et la partie d'Israël qui remonte d'Égypte, c'est Jacob qui redevient Israël. Voilà le problème. Alors on voit au moins le premier verset de Shemot et on va voir comment ça nous est annoncé. Voilà, regardez bien le premier. C'est par là que je voulais commencer, mais enfin, on y arrive. Vele Shmot Bene Israël Abay Mitzray Maet Yarako Ishu Betovel. Voilà, pas chouette, vous avez compris déjà. Et voici les noms des enfants d'Israël venu en Égypte avec Jacob. Chacun est venu avec sa famille, avec sa maison. Le seul fait qu'on les appelle les enfants d'Israël, venus en Égypte avec Jacob, on sait qu'il y aura la sortie d'Égypte. Parce que c'est les enfants d'Israël qui sont venus avec Jacob en Égypte. Vous voyez le texte ? C'est clair maintenant. Okay ? Voilà. J'ajoute encore un verset, on s'arrête là. Alors, on énumère les noms. Réouben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulon, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Vayhi, Kol Nefesh, Otse, Yerech, Yaakov, 70 Nefesh. Et ce fut le nombre des personnes sorties de l'ange de Jacob, 70 personnes. Veyosef, Aya, Ben Mitzray. Et Joseph était en Égypte. Alors, les commentateurs expliquent de la manière suivante. D'après le premier verset, les enfants d'Israël venus en Égypte avec Jacob étaient en direction de l'Égypte, Mitzrayim. Seul Joseph était capable d'être en Égypte et de rester Israël. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez comment ça se passe dans l'histoire ? Lorsque la famille de Jacob va dans un exil, alors vous avez tout de suite, les enfants d'Israël sont dans un ghetto quelque part. Et un Joseph à l'Élysée, enfin dans le palais du Pharaon. Vous avez compris ce que je veux dire ? Vous avez les Juifs à la rue pavée et les Israélites au 16e. Est-ce que vous voyez la différence ? Mais il n'y a que Joseph qui est capable d'être au 16e et de rester juif. Enfin, tant qu'il est israélite, ça va encore. Et vous voyez que l'histoire se répète toujours de la même manière. Le judaïsme français, dont nous avons fait partie, et je dois vous dire que c'est pas... qu'on dise Ildoul en français. Je ne méprise pas de tous ces choses-là. Je suis resté au service du judaïsme français depuis ma Aliyah. Je suis un des rares rabbins français, enfin, français, algérien, mais enfin, français, qui soit resté au service de la communauté en France. Vous avez remarqué que je voyage de temps en temps. Okay et donc, je ne crois pas que c'est une identité, le juif français, à laquelle il faut renoncer. Mais il faut qu'elle soit authentique. C'est une communauté qui s'est perpétuellement assimilé, sans arrêt, et qui a été ressuscité chaque fois par l'apport d'immigrés venus d'ailleurs. C'est clair. Regardez ce qui s'est passé après la guerre mondiale. Les rescapés des Juifs d'Europe centrale, les rescapés des Juifs d'Afrique du Nord et d'Égypte et du Levant, hein, qui ont refait un judaïsme. Mais il n'y a pas de judaïsme français. Il y a des Juifs en France. Et quand ils deviennent israélites, c'est le chemin de la disparition. Il y a des résistants partout. J'ai connu des descendants de familles de juifs français qui étaient français avant le temps de Vercingétorix. Okay ? Non, je ne dis pas des blagues. Okay ? Il y a les derniers des Mohicans, ça existe partout. Okay ? Bon, mais c'est vraiment une communauté dont l'histoire est l'histoire d'une assimilation perpétuelle. Actuellement, il y a un revival, comme on dit en français, une vie, oui, artificielle de la culture juive en France parce qu'Israël existe. C'est Israël qui fait ça. Okay. Je ne rends pas compte. Okay. Mais c'est une communauté qui s'assimile. Et un jour, j'ai imagé ça comme ça. Vous savez qu'on a une page de la Gemara qui fait allusion au jugement dernier et Dieu fera l'appel famille par famille. Et je vais raconter ce midrash, on s'arrête là. C'est dans le début de la Maseret Avodah Zarah. Non, la Maseret Sota. Enfin, c'est ou Avodah Zarah ou Sota. Est-ce que quelqu'un veut tirer si j'ai mes clés? Sinon, oui, j'ai mes clés. Regardez, vous avez une Gemara là. Donnez-moi Avodah Zarah et Sota. Je n'ai la clé. Si déjà on a une Gemara, qu'on en profite. Je veux vous donner la référence. Je crois que c'est Avodah Zarah, page 2. Regarde, Avodah Zarah. Alors, il y a un midrash qui dit comme ça. À la fin des temps, Dieu va convoquer toutes les nations au jugement dernier. Appuie. Voilà, tu appuies là. Mais non, tant que tu es dans la clé appuyée, tu tires. Ça, c'est la technique moderne. Il y a ça en même temps. Voilà. Bon, ça fait rien. Mais allez. C'est, ça fait rien, arrête, sinon on va pas continuer. C'est Abou Dazara, page 2, vous vérifierez hein, vous-même. Et le Midrash dit qu'à la fin des temps, Dieu va rassembler les nations en leur demandant de s'affilier famille par famille. Finalement, ils arrivent tous en désordre, le cosmopolitisme international, et Dieu leur dit non, ça ne marche pas comme ça, pour vous juger, il faut vous affilier. Il n'y a que deux familles humaines qui arrivent à s'affilier, c'est Rome et la Perse. C'est-à-dire, du point de vue du décodage typologique religieux, c'est la chrétienté et l'islam. Et de cette page de Gemara, que le Maharal va utiliser d'ailleurs, on apprend que l'islam, c'est la Perse. Il a fallu longtemps pour savoir que le fondamentalisme musulman, c'est bien l'Iran, plus que l'Arabie. Et alors, le Midrash dit que chaque... les nations vont être jugées une fois qu'ils s'affilient. Et puis, Dieu leur dit la Torah. Alors chacun va plaider pour son histoire. Il leur dit, mais vous n'avez pas accompli la Torah. Tout ce que vous dites que vous avez accompli, c'est moi qui l'ai fait. Les uns disent, eh bien, on a fait le commerce. On dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. On a fait les guerres. On dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. Hachem, Ishmil, Hama, etc. Ça, c'est le monde que j'ai créé fonctionne parce que je le fais fonctionner. C'est pas vous qui avez fait les civilisations. Alors les nations disent, la Torah, c'était sérieux. On savait pas. Donne-nous la Torah comme tu l'as donnée à Israël et tu verras que ça ira. Vous suivez? C'est dans la Gemara, tout ça. Alors, la phrase même est comme ça. Tu nous as pas obligés à avoir la Torah. Parce qu'Israël, Kafar Aleh, Marc et Gigit, Dieu a obligé Israël au Sinaï. Dis, oblige-nous, tu verras bien. Okay. Elle a dit, non, je ne vous oblige pas. Je vous donne une mitzvah, pas tout cas. On va voir si vous êtes capable. Fondez le club méditerranéen, on va voir comment ça marche. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ça, c'est la Torah des nations, le club méditerranéen. C'est un juif qui leur a fait ça. Et alors, ils font la souka. Et puis Dieu fait brûler le soleil de manière telle qu'ils sont obligés de sortir de la soukha en claquant la porte. Alors Dieu leur dit, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable de pratiquer même pas une mitzvah de ce genre. Et les commentaires de la Gemara objectent, je crois que la Gemara elle-même objecte, la Gemara elle-même dit, mais c'est pas juste. Pourquoi il a fait brûler le soleil de telle sorte qu'il soit obligé de quitter la soukha? La réponse est extraordinaire. Dit, on a le droit d'après la halakha, s'il fait trop chaud, si c'est insupportable de quitter la soukha, mais pas en claquant la porte. C'est ça la grande différence. Quand un juif ne peut pas pratiquer une mitzvah, il est malheureux de ne pas pratiquer la mitzvah. Tandis que les goyims se frottent les mains. On n'a pas la Torah, on est tranquille. Vous voyez la différence. Bon, finalement, le Midrash s'arrête là. Les goyims sont disqualifiés. Ils sont même pas capables de pratiquer la soukha. Et la soukha, vous savez, c'est la fête où on prie pour les goïms. C'est relié. Vous savez cela, les 70 nations. Alors moi, j'ai ajouté une suite à ce midrash. C'est qu'au moment où Dieu a dit, on va juger l'humanité, les anges ont dit, préparer le jugement, ils ont dit, on ne peut pas faire le jugement. Parce qu'il n'y a que Israël qui a accepté la Torah. Et donc, Dieu répond, eh bien, on va juger Israël. Ce n'est pas un midrash anti-juif. Okay, puisqu'il n'y a qu'Israël qui a accepté la Torah, on va juger Israël d'après la Torah. Et à ce moment-là, toutes les nations se lèvent comme un seul homme et disent, parce que ça c'est la suite du Midrash, Atem Aïda, et vous êtes mes témoins, on veut témoigner. Et ils disent, témoigner, que je témoigne, nous avons fait tout ce qu'on a pu pour empêcher les juges de pratiquer la Torah. Alors Dieu dit à Israël, entre nous, vous l'avez échappé belle. Mais pour arriver à cela, c'est que d'après le sens de ce midrash, on ne peut pas juger les nations parce qu'elles n'ont pas accepté la Torah. On peut juger qu'au nom de la loi. Comment on va juger les nations d'après leurs juifs? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Ça veut dire que quand les juifs allemands arriveront au jugement dernier, Dieu va leur demander, est-ce que j'ai bien fait de faire l'Allemagne? On va voir ce qu'ils vont répondre. Et nous avons le sort de la France entre les mains. Dieu va nous demander, la France, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense pas moins. Et alors à ce moment-là, on fera l'appel. Et on entendra une voix qui fera l'appel, dira « Judaïne français ». La réponse, mort pour la France. Voilà ce que je voulais dire. C'est un judaïsme qui s'assimile perpétuellement. Mais on a exactement le même schéma. Vous voyez ? Les enfants de Jacob, c'est Israël, mais en ghetto. Ils ne peuvent pas supporter la vie dans le monde extérieur. Joseph seul est capable. Mais il y avait un seul Joseph qui était tzaddik. Tous les autres. Regardez ce qui est arrivé avec le christianisme, qui est une messianité d'un fils de Joseph. C'est dans le même style. Bien. Et on a quand même appris un verset. Alors, on se reverra la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est le nom de la thème.